France Culture.
Tout de suite, on fait le point sur l'information avec le journal de la rédaction. Et vous, Thomas Cluzel, rebonjour.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, la Russie assure qu'elle poursuivra son offensive en Ukraine tant que Kiev n'aura pas accepté ses conditions. Et ce, alors même que vient tout juste de s'ouvrir un nouveau cycle de pourparlers. Nous serons à Moscou dès le début de ce journal. L'actualité en France, c'est toujours le traumatisme qui prévaut. Au lendemain de la violente agression au couteau d'une enseignante, son agresseur, un élève de 14 ans, est en garde à vue. Et les enquêteurs, on le verra, s'intéressent tout particulièrement à son cadre familial. Avec notre invité, on reviendra sur cette perquisition menée hier au siège français de la plateforme X. Enfin, on détaillera les progrès révolutionnaires de la science dans la lutte contre le cancer. En Ukraine, quasiment 4 années de guerre plus tard, les mots ont décidément toujours davantage de mal à raconter l'espoir plutôt qu'à décrire la souffrance et le découragement. Pour preuve, dans la nuit de lundi à mardi et sans attendre la fin de la pause annoncée par le président américain, l'armée du Kremlin a lancé sur son voisin l'une de ses attaques les plus puissantes depuis le début de l'année, laissant notamment des centaines de milliers de civils sans chauffage par un froid glacial. Et forcément, dès lors que même la trêve énergétique n'était au fond qu'une illusion, comment se convaincre que les difficiles pourparlers débutés aujourd'hui à Abu Dhabi entre négociateurs ukrainiens, russes et américains pourront mettre fin au pire conflit armé en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Sylvain Tronchet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Correspondant de France Culture à Moscou, même la presse russe ce matin ne semble pas croire, Sylvain, à un arrêt des combats à la ligne de démarcation actuelle.
Oui, si le Kremlin, comme d'habitude, dit peu de choses finalement avant ce nouveau round de négociations, la presse russe, elle, n'est non seulement pas très optimiste, mais elle a même tendance à anticiper les points de blocage. Alors, on sait que la question des territoires est essentielle. Moscou veut que les troupes ukrainiennes se retirent de tout le Donbass, non encore conquis, ce qui, en l'état, est inacceptable pour Kiev. Mais ce n'est pas tout. Les journaux russes martèlent ce matin que toute présence de troupes étrangères sur le sol ukrainien est inenvisageable pour Moscou. Or, c'est un des points des garanties de sécurité qui seront évoquées. Bref, les attentes concernant ces discussions doivent rester modestes, écrivent ce matin les Izvestia, le tout dans un contexte, vous en avez parlé, de reprise des frappes massives de l'armée russe sur Kiev. Dans le journal du gouvernement Rassiskaya Gazeta, un expert militaire a au moins le mérite d'être clair. Nous allons continuer nos frappes jusqu'à ce que l'Ukraine signe la paix à nos conditions.
Il existe pourtant bel et bien, Sylvain, quelques signaux susceptibles de privilégier un scénario de fin des combats. Depuis ce matin, cet officiel, l'économie russe a dévissé. Vladimir Poutine l'a d'ailleurs annoncé lui-même, la croissance n'a été que de 1% en 2025 contre plus de 4% un an plus tôt.
Oui, Vladimir Poutine a eu beau tenter de maquiller les chiffres lors d'une réunion télévisée où les visages étaient graves, disant que ce ralentissement de la croissance était en quelque sorte artificiel parce que les taux d'intérêt très hauts, 16% du côté de la Banque centrale, sont là pour juguler l'inflation. Il a eu beau dire que la reprise de l'inflation, d'ailleurs également observée en ce début d'année, n'était que temporaire parce que le gouvernement a augmenté la TVA pour boucler son budget, les mauvais signaux s'accumulent quand même pour l'économie russe. Et ce n'est pas une surprise pour de nombreux économistes qui constate que, hors industrie d'armement, toute l'économie russe est à l'arrêt, l'investissement est à tonne, la main-d'œuvre manque, les banques voient la part des crédits en défaut augmenter dangereusement, elle atteint 10% aujourd'hui, les perspectives sont mauvaises. Pas sûr néanmoins que ce soit au point où le Kremlin en tirerait des conséquences majeures, mais ça ne va pas s'arranger, prédisent beaucoup d'experts.
Et d'ailleurs, en attendant, Sylvain, il suffit de constater l'accélération des avancées sur le champ de bataille des troupes de l'envahisseur pour comprendre que l'attitude de Moscou n'a pas changé. Au fond, en clair, le Kremlin continue coûte que coûte de miser sur la guerre et la destruction de l'Ukraine.
Oui, et de ce point de vue, la trajectoire du Kremlin semble nettement plus claire que les orientations économiques. La volonté de cibler les populations civiles au travers de frappes sur le système énergétique est même maintenant totalement assumée dorénavant à la télévision, alors que jusque-là, le discours était plutôt « nous ne frappons que des objectifs militaires ». Ceci dit, il y a une inconnue de taille sur le terrain quand même, c'est le niveau des pertes côté russe.
Merci Sylvain Tronchet en direct de Moscou. Alors avec la théâtralisation de la violence partout dans le monde, notamment la remise en question de l'ordre mondial par les superpuissances, il paraissait difficile d'imaginer trouver dans le rapport annuel de Human Rights Watch rendu public aujourd'hui la moindre lueur d'espoir. À travers plus de 500 pages, y est répertoriée la longue litanie des violations des droits de l'homme constatées durant l'année écoulée. Et pourtant, le directeur exécutif de l'ONG veut encore croire qu'un changement est possible. C'est ainsi qu'en préambule, Valérie Crevel propose notamment une alliance des pays qui adhèrent toujours aux vertus de la démocratie.
Il y a ce constat, 72% de la population mondiale vivent aujourd'hui sous un régime autocratique. La régression de la démocratie n'est pas une fatalité, veut croire Philippe Bolopion. Le directeur exécutif de Human Rights Watch milite pour une alliance stratégique entre pays qui partagent des valeurs communes.
On peut penser à des pays comme le Canada, l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Japon, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud, l'Australie. Si tous ces pays unissent leurs forces, ils auront beaucoup plus de poids face à des superpuissances comme la Chine et les États-Unis qui essayent de saper les normes de droits de l'homme et de démocratie.
S'unir, mais dans quel but ?
Une alliance de cette nature pourrait d'abord présenter un poids économique important, mais aussi nouer des alliances en termes de défense et aussi pour représenter une force de frappe diplomatique dans les instances internationales comme l'Assemblée générale de l'ONU ou le Conseil des droits de l'homme.
Et Philippe Boulopion, de s'inquiéter aussi pour l'avenir de son organisation basée aux États-Unis.
Avec une administration Trump qui menace toutes les voies qui s'opposent à elle, en fait, c'est un moment extrêmement dangereux pour notre mission.
L'histoire est une lutte permanente entre la liberté et la tyrannie, disait Hannah Arendt. Depuis 20 ans, c'est la seconde qui prend le dessus sur la première, résume Philippe Boulopion.
Midi et 36 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
On savait déjà le réseau social X dans le viseur de Bruxelles pour la diffusion de contenus illicites, en particulier ces deepfakes sexuels, ces images explicites manipulées mettant en scène des femmes et des enfants. Et hier, nouvelle étape majeure de ce clivage transatlantique de plus en plus marqué entre la plateforme d'Elon Musk d'un côté et les régulateurs européens de l'autre. Non seulement les bureaux parisiens de X ont été perquisitionnés, mais le milliardaire lui-même a été convoqué par le parquet de Paris pour des auditions libres le 20 avril prochain. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction, Alexandre Archambault, avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit numérique. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Il se trouve qu'aujourd'hui même marque la date limite à laquelle le réseau social X est tenu de payer l'amende de 120 millions d'euros que la Commission européenne lui avait infligée en décembre dernier. Celle-ci venait sanctionner non seulement la conception trompeuse de la fameuse coche bleue censée garantir l'identité des personnes, mais aussi un manque de transparence lié aux données publicitaires. Est-ce que ça signifie que l'on dispose aujourd'hui d'outils juridiques efficaces pour réguler le fonctionnement des services numériques ?
Oui, exactement, tout à fait. Ce qu'il faut retenir, c'est que, contrairement à ce qu'on peut entendre chez nos décideurs publics, notamment français, Internet, le numérique, n'est pas une zone de non-droit, ce n'est pas le Far West, et les plateformes ne font pas leur propre loi. Le droit européen qui s'applique d'autorité en France, hein, puisque c'est ce qu'on appelle un règlement, dispose de tous les outils, toutes les procédures pour mettre ces plateformes-là devant leur responsabilité dans la mesure où elles influent de façon massive sur le quotidien de centaines de millions de citoyens de l'Union européenne.
Je le disais en introduction, le parquet de Paris a donc fait savoir hier qu'une perquisition avait été menée dans les locaux français du réseau social X et qu'Elon Musk, de même que l'ancienne directrice générale de la plateforme, d'ailleurs a été convoquée pour une audition libre le 20 avril. La procureure a précisé que l'enquête en cours visait à garantir la conformité de la plateforme aux lois française. Quel regard portez-vous sur cette initiative et quelles sont ses chances réelles d'aboutir ?
Ben là, on est un petit peu de ce que on appelle un peu la fierté de l'amateurisme. C'est très au service de la France. Nos décideurs publics font mine de ne pas comprendre que sur le numérique, si on veut peser efficacement sur ces grands acteurs du numérique qui, pour la plupart, ne sont pas établis en France, la maille nationale n'est plus pertinente. On ne peut agir qu'à la maille continentale, et c'est le constat qu'ont fait les pays européens, c'est que désormais, toute la réglementation de ces plateformes-là remonte à l'échelon européen. Et d'ailleurs, Twitter a été déclaré ce qu'on appelle très grande plateforme, et donc doit rendre des comptes pas au niveau local, mais au niveau de la Commission européenne. Et justement, sur ces problématiques de deepfake, une enquête a été ouverte la semaine dernière. Donc tout ça pour dire que les initiatives qui sont initiées au niveau national, c'est un peu comme si on allait perquisitionner votre concessionnaire ou le garage Renault au bout de votre rue pour demander des comptes aux constructeurs.
Et justement,
ça fonctionne peut-être au niveau image, mais juridiquement, ça n'avance à rien puisque la filiale française de Twitter n'est pas le responsable de traitement, ce que rappellent à longueur de décision les juridictions civiles.
Et pourquoi donc une telle démarche a-t-elle été lancée en France si, comme vous venez de le rappeler, la prévalence du droit européen est avérée ?
Parce que là, ça n'a échappé à personne. On est dans une guerre de communication et à même titre que les grands propriétaires de ces plateformes-là ne se privent pas d'utiliser les réseaux sociaux pour asséner des punchlines et de gros raccourcis, il n'est pas illégitime que les pouvoirs publics y contribuent aussi également. Simplement, autant essayer de le faire en respectant un petit peu les fondamentaux de l'état de droit et de la construction européenne. Et c'est ce que rappelle régulièrement le juge européen aux États membres. Il y a un troisième arrêt qui va pas tarder à arriver et qui vise spécifiquement la France. Et cette passion du concours Lépine de la mesure nationale visant à contourner le droit de l'Union, l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne dit oui, effectivement, les États membres, vous êtes pleinement dans votre rôle pour garantir l'ordre public au niveau national, la protection des mineurs, la protection des consommateurs, tout ce que vous voulez. Simplement, faites-le en respectant le droit européen. Faites-le en respectant les textes européens. Et qu'est-ce que disent les textes européens ? C'est que sur le numérique, quand vous êtes une très grande plateforme, la machine à baf, c'est la Commission et le pays d'établissement. C'est pas le pays où les services peuvent être fournis. Ceci étant dit, les pays dans lesquels les services peuvent être fournis, ce qui est le cas effectivement au niveau national, peuvent dans ce cas-là alimenter les enquêtes. C'est ce qu'on fait par exemple sur les données personnelles. Pourquoi on n'est pas capable de le faire sur ce sujet-là ? Il serait peut-être temps que les pouvoirs publics au niveau national intègrent cet élément-là, parce que au final, on fait le jeu de ces très grandes plateformes en jouant contre notre propre
camp.
Bien compris. Et ça retarde et on ne rend pas service aux victimes.
Et l'on terminera par ces mots. Merci Alexandre Archambault, avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit du numérique, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Louise Guérin pour la préparation.
La professeure d'art plastique de 60 ans, poignardée hier dans sa classe par un élève de 3e à Sanary-sur-Mer, est toujours aujourd'hui entre la vie et la mort.
Il était 14 ans lorsque l'enseignante a reçu plusieurs coups de couteau portés par un adolescent de 14 ans, interpellé, placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. Le jeune homme aurait confié avoir eu l'intention de s'en prendre à sa professeure sur fond de ressentiment, aucune connotation religieuse ou politique donc à ce stade. Et de fait, au-delà des seuls cas de radicalisation, d'autres sujets de risque sont malheureusement parfois susceptibles de conduire certains élèves à passer à l'acte, qu'il s'agisse de contentieux scolaires, mais aussi de faiblesses psychologiques ou de troubles de la santé. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
En l'occurrence, ce collégien n'était pas connu des services de la justice. En revanche, Hakim, il était suivi par le tribunal pour enfants pour des suspicions de violence commises par ses parents.
Oui, selon le procureur de Toulon, qui a un signalement a même été effectué en mars par le collège à la suite de suspicions de violences commises par les parents sur sa jeune sœur. Et en septembre, un juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative pour les deux enfants. Résultat, il a fallu 4 mois entre le moment où le collège a signalé les faits et le moment où le ministère de la Justice en a tenu compte, comme nous le rappelle ce matin Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, qui reconnaît que le délai était beaucoup trop long sur RTL.
Je ne veux pas parler en particulier, mais il est évident que quand il y a un signalement pour violence qui touche un enfant, un mineur, et que nous mettons 4 mois pour lui donner un rendez-vous, oui, effectivement, on pourrait être beaucoup plus efficace pour pouvoir entendre cet enfant, ce mineur, et pouvoir éviter en effet qu'il reproduise des violences. Ça ne prémunit pas de tout, mais notre travail au service public de la justice, c'est d'être plus rapide. C'est ce que j'essaie de faire depuis un an au ministère de la Justice.
Pour autant, dans ce type d'affaires, les délais peuvent être encore beaucoup plus importants, faute de moyens humains, comme nous l'explique Marie Tamboura, principale du collège REP Césaria Evora à Montreuil en Seine-Saint-Denis et membre du SNPDEN.
C'est un délai qui est extrêmement courant, voire relativement court, puisque nous savons, nous en faisons l'expérience quotidiennement, le temps de l'école n'est pas non plus celui de la justice et les signalements qui sont faits par les établissements scolaires sont parfois examinés au bout de plusieurs mois. Ça peut aller parfois de 6, 12, 18 mois.
Quant aux élèves du collège La Guicharde de Sanary, ce matin, ils n'ont pas eu cours, mais ils ont pu être reçus par la cellule psychologique.
Merci Hakim Kasmi. Et puis j'ajoute que ce matin, l'adolescent reconnaît en garde à vue avoir prémédité l'agression de sa professeure et dit regretter son geste. L'anéantissement de l'ambition d'une vie, à tout le moins les chances pour Marine Le Pen de pouvoir candidater à la présidentielle de 2027, se sont-elles singulièrement amenuisées hier après la confirmation au procès en appel des assistants d'eurodéputés du FN de sa peine de 5 ans d'inéligibilité requise par l'accusation, ce qui signifie que pour conjurer ce sort et permettre donc à la chef de l'extrême droite française d'entrevoir à nouveau un avenir politique, eh bien ses avocats n'auront d'autre choix à présent que de convaincre la Cour de ramener ses réquisitions à 2 seules années d'inéligibilité, une gageure soufflée déjà hier l'un d'entre eux à la sortie de l'audience. Quoi qu'il en soit, ce matin ont donc débuté les plaidoiries de la défense. L'arrêt de la Cour d'appel sera lui connu d'ici l'été.
Le nombre de magasins des grandes enseignes de mode a chuté en France de près de 20% entre 2019 fait 2025.
Et le recul est particulièrement sévère pour les centres-villes, prévient l'Alliance du Commerce. Alors, la moitié de ces disparitions de boutiques résulte en réalité de choix stratégiques de la part des marques pour réduire leurs coûts, ferment plus de points de vente aujourd'hui qu'elles n'en ouvrent. Et puis l'autre moitié est due aux très nombreuses procédures judiciaires qui frappent le secteur. Dernier exemple en date, Annabelle Grolier. Hier, les marques Okaïdi et Balibaris ont toutes les deux été placées en redressement judiciaire.
Sous la pression de la fast fashion et de la seconde main, les marques françaises de prêt-à-porter vacillent. Faillite, redressement judiciaire et liquidation ont rythmé 2025. IKKS, Camailleux, Koukaï, Pinky, Comptoir des Cotonniers, Princesse Tam Tam. Cette crise a même été fatale pour certaines d'entre elles, liquidées comme Caporal et Jennifer. Pourtant, on n'a jamais autant acheté de vêtements. Environ 3 milliards de pièces par an, un volume en constante augmentation, mais pour des chiffres d'affaires moindres, car on pousse de moins en moins la porte des magasins pour faire son shopping sur Internet. Le commerce en ligne se développe à grande vitesse, tiré par les plateformes asiatiques telles que Shein, Temu ou AliExpress. Des plateformes qui étranglent les enseignes de milieu de gamme comme Okaïdi. Et si beaucoup de ces marques françaises font également produire en Chine, ce n'est pas du tout comparable, estime Yann Rivoilan, le président de la Fédération du prêt-à-porter.
On a un approvisionnement qui se fait à 70% en Chine et en Asie pour la majorité des marques. On pourrait donc croire que c'est au même endroit, mais pas du tout. La société Chine fait produire tous ses vêtements dans des petits ateliers où ils exploitent les gens avec des vêtements qui sont fabriqués à 80% polyester. Si je reprends le cas de la marque Okaïdi, on n'est pas du tout dans ce registre. Okaïdi se fabrique dans des grandes usines qui sont beaucoup plus modernes, avec des conditions de travail qui n'ont aucun rapport et avec des produits qui sont essentiellement en coton. Si rien n'est fait contre les plateformes d'ultra fast fashion comme Shein ou Temu, le pire est à craindre parce que, on le voit, cette concurrence déloyale, ce parasitisme qui est mis en place par ces entreprises, détruisent les marges, détruisent les achats et prennent des parts de marché démentielles.
L'activité habillement textile a reculé de 8,5% depuis 2019, selon l'Institut français de la mode. À noter que parmi les changements de consommation du côté vertueux, la seconde main est également en constante augmentation. Elle représente aujourd'hui 8% de parts de marché.
Retour à la case départ, ou presque.
Une semaine après le rejet par le Sénat de la loi sur l'aide à mourir, le texte revient aujourd'hui en commission à l'Assemblée. Les députés seront saisis en deuxième lecture de leur propre version adoptée il y a près d'un an. Un parcours législatif décidément tumultueux qui s'explique en partie du fait des soubresauts politiques récents depuis la dissolution, mais pas seulement, puisque cette réforme sociétale majeure transcende en réalité les clivages politiques en touchant aux convictions intimes de chacun.
Enfin, l'optimisme est bien souvent une arme insuffisante contre le cancer, et pourtant...
À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la maladie, l'OMS l'affirme, près de 4 cancers sur 10 dans le monde pourraient être évités. Comment ? En agissant sur ces causes imputables à des risques évitables qui n'intègrent donc pas l'âge ni la génétique, mais nos comportements et nos modes de vie, de sorte qu'on pourrait ainsi éviter plus de 7 millions de cas de cancer par an. Et puis, quand bien même le cancer progresse donc à l'échelle mondiale, à mesure que les taux d'incidence augmentent, eh bien la recherche progresse elle aussi, au point que certains experts parlent d'une véritable révolution avec des traitements dits adaptatifs, grâce, tâche légale, à l'adaptation des cellules tumorales, notamment au stress.
Oui, par exemple, au moment de former des métastases ou face à des traitements qui cherchent à éliminer ces cellules. Professeur Alain Puisieux, président du directoire de l'Institut Curie, revient sur cette véritable stratégie.
On appelle la plasticité cellulaire, c'est-à-dire que certaines cellules cancéreuses arrivent à changer d'identité pour s'adapter et ainsi résister au traitement. Donc là, il y a un changement de paradigme qui est important. C'est qu'on comprend en fait qu'au-delà de bloquer la prolifération des cellules cancéreuses, ce qu'on sait faire par la radiothérapie, les chimiothérapies conventionnelles, les thérapies ciblées, eh bien, il faut aussi être capable de cibler ces capacités d'adaptation pour anticiper et pour bloquer une évolution possible.
Illustration avec les travaux du professeur François-Clément Bidard, médecin et chercheur sur les cancers du sein sensibles aux hormones. Au stade métastatique, le traitement de ces cancers cible, entre autres, un récepteur aux œstrogènes. Mais 4 fois sur 10, une résistance survient qu'on peut, raconte ce professeur Puisieux, détecter dans le sang.
Parce que les cellules cancéreuses, en fait, meurent, heureusement, surtout sous traitement, et vont relarguer des fragments d'ADN, ce qu'on appelle l'ADN tumoral circulant, et on pourra étudier sur une simple prise de sang ce qui se passe dans la tumeur. Et bien, chez certaines de ces patientes, il a pu voir l'émergence d'une mutation qui, probablement à terme, allait provoquer une résistance au traitement. Et il a fait une étude de phase clinique, François-Clément Bidard, et pour certaines de ces patientes avec la mutation, il a changé de traitement, et il a pu montrer une augmentation significative de leur survie et de leur qualité de vie. Donc c'est typiquement la médecine adaptative.
Et cette approche est devenue une piste de recherche pour d'autres cancers.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Couvert, parfois humide sur la plupart des régions de l'ouest et du centre. En revanche, de belles éclaircies parviendront à se développer sur le nord-est. Quant aux températures, elles seront comprises entre 7 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.